Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré au vaccin contre la Covid. À l'ordre du jour ce soir, la Covid peut-elle changer le rapport des Français au vaccin ? Trois jours après l'annonce de la mise en production prochaine d'un des nombreux vaccins en développement contre la Covid et au lendemain d'un débat sur la possibilité de rendre obligatoire cette vaccination, le temps du débat s'interroge ce soir sur le rôle que joue cette pandémie dans l'acceptation ou non d'un vaccin. De nombreuses enquêtes font en effet de la France un des pays les plus rétifs à la vaccination. Le coronavirus change-t-il cette attitude ? Changera-t-il cette attitude ? Que faudrait-il faire pour rendre acceptable pour une partie de la population l'idée d'être vacciné ? En attendant le développement des différents vaccins, que dire aux Français hésitants face à cette idée ? Nous allons en discuter avec nos trois invités, avec Alain Fischer. Bonsoir Alain Fischer.
Bonsoir.
Vous êtes professeur émérite d'immunologie pédiatrique, titulaire de la chaire de médecine expérimentale au Collège de France, président du comité d'orientation de la concertation citoyenne sur la vaccination, c'était en 2016, elle a été lancée par Marisol Touraine, et membre d'un comité d'évaluation des vaccins. Avec nous également, Elisabeth Bouvet. Bonsoir Elisabeth Bouvet.
Bonsoir.
Vous êtes présidente de la commission technique des vaccinations de la HAS, la Haute Autorité de Santé, et avec nous une géographe. Bonsoir Lucie Guimier.
Bonsoir.
Vous êtes docteur à l'Institut français de géopolitique et spécialiste des mouvements anti-vaccins. Vous avez fait votre thèse sur les approches géopolitiques de la résistance aux vaccinations en France à partir du cas de l'épidémie de rougeole 2008-2011.
Il faut absolument trouver le moyen de vacciner largement la population européenne et j'espère que la coopération internationale qui s'est organisée autour aussi de la vaccination, pour que ce soit pas simplement les pays riches qui puissent se vacciner, mais il va falloir, y compris, je l'espère, une coopération européenne pour que ces 300 millions de doses, et si je comprends bien, ça veut dire 150 millions de personnes vaccinées.
Il faut deux doses par personne.
En 2021, aille évidemment aux populations les plus fragiles, les plus vulnérables, les plus exposées, et que ce soit pas au fond une forme de compétition sociale. J'espère que tout le monde pourra se faire vacciner.
Il y a 40% de Français qui sont plutôt réticents à l'idée de se faire vacciner.
J'ai pas de doute. Enfin, franchement, vu ce que nous vivons, les petits commerces qui sont en train de mourir, nos personnes âgées dans nos familles qui sont tétanisées à l'idée de sortir, de voir leurs petits enfants, nos relations sociales qui sont quand même terriblement affaissées. J'espère que tout le monde va participer, à la fois aujourd'hui, je le rappelle, du respect des règles très strictes. Le vaccin n'est pas là, faut pas relâcher les efforts. Et puis, quand le vaccin sera là, de se faire vacciner.
Il faut qu'il soit obligatoire.
Oui.
Oui ?
Oui.
Voilà la réponse à la question de France Info, c'était avant-hier, de l'eurodéputé Europe Écologie Les Verts Yannick Jadot, qui demande que le vaccin donc contre la Covid soit obligatoire. Il n'a pas de doute. En avez-vous, Alain Fischer ?
Écoutez, je trouve que le plaidoyer de M. Jadot en faveur de la vaccination est particulièrement bienvenu, puisque le jour un vaccin ou des vaccins, espérons-le, seront disponibles, il faudra que nous soyons en situation d'avoir établi un contrat, je dirais, de confiance avec la population, en tous les cas avec ceux qui auront en priorité besoin d'être vaccinés. Donc ceci est très positif. Est-ce que pour autant il faut rendre et parler de vaccination obligatoire ? Je ne le pense pas. Je pense qu'il est mieux de faire en sorte, et j'imagine qu'on pourra en discuter pendant les minutes qui viennent, de créer un climat de confiance, d'adhésion de la population, qu'elle comprenne à travers une information de qualité, honnête, complète, transparente, facile à saisir, que c'est l'intérêt de chacun et sans doute aussi l'intérêt collectif, si le vaccin protège contre la contamination, on verra, c'est l'intérêt donc de notre société de se vacciner sans pour autant recourir à l'obligation.
Elisabeth Bouvet, est-ce que vous avez des doutes ou est-ce que vous n'en avez pas comme l'eurodéputé Yannick Jadot ?
Bon, écoutez, moi je suis très, très en phase avec ce que vient de dire Alain Fischer, c'est-à-dire que moi je représente ici la CTV, je ne suis pas toute seule, c'est un groupe de gens qui ont réfléchi à ce qu'on peut proposer en matière de vaccination. D'ailleurs, à ce propos, je pense que c'est important de dire qu'on a fait On a mis en consultation publique, justement, sur le site de la Haute Autorité de Santé, une proposition en matière d'organisation de la vaccination. Et dans ce projet, qui va être justement modifié grâce aux apports des gens qui viendront intervenir sur cette proposition, nous nous prononçons plutôt contre l'obligation vaccinale, au moins pour l'instant, en disant que les conditions, à notre avis, ne sont pas réunies pour rendre cette vaccination obligatoire. En revanche, c'est une hypothèse qu'il faut peut-être envisager dans un deuxième temps, mais pas pour le moment. Mmh.
Lucie Guimier, est-ce que vous avez des doutes? Est-ce que vous avez été surprise par cette déclaration d'un eurodéputé Europe Écologie Les Verts, tel que Yannick Jadot?
Alors oui, d'une part, la tension entre obligation et recommandation vaccinale, c'est une question qui accompagne l'histoire de la santé publique, et les autorités publiques ont toujours eu du mal à trouver un juste équilibre entre les deux. Et je suis d'autant plus étonnée de ce discours tenu par Yannick Jadot que les élus écologistes ne nous ont pas habitués à ce genre de discours,
c'est-à-dire
disons, plutôt pro-vaccin. Je pense par exemple à Michel Rivasi,
qui était le numéro 2 de la liste aux européennes.
Oui, elles ont donc je pense à Madame Rivasi et Madame Rubirola qui ont toutes deux eu des discours plutôt vaccinosceptiques récemment.
Et qu'est-ce que c'est qu'un discours vaccinosceptique? Comment peut-on le qualifier? Parce que j'imagine que ça n'est pas un groupe, ce sont plusieurs types de groupes. C'est quoi un discours vaccinosceptique, vous qui avez travaillé sur cette question-là, Lucie Guimier?
Disons qu'un discours vaccinosceptique, c'est un discours qui encourage la méfiance vis-à-vis des vaccins. Je veux dire, on peut se poser des questions, c'est très sain de se poser des questions et de se demander quels sont les bénéfices et les risques de tels vaccins et d'en peser le pour et le contre. Mais là, je parle d'élus qui ont eu des discours clairement négatifs à l'encontre de la vaccination d'une manière générale, et ces personnes-là ont quand même une responsabilité vis-à-vis des citoyens, et ce sont des discours qui portent énormément et qui, malheureusement, font généralement beaucoup de mal envers la confiance citoyenne envers les vaccins.
Mmh. Alain Fischer, ça ne sont pas des discours qui sont tout récents, ça n'est pas la Covid qui les a créés. Ces discours, ils existent, ils préexistent même. Et ils se sont développés, vous qui avez fait cette concertation citoyenne sur les vaccinations à la demande de Marisol Touraine, vous les avez sûrement entendu ces discours à ce moment-là, surtout lorsqu'il s'est agi de rendre obligatoire pour les enfants 11 vaccins au lieu de 3, je crois, auparavant. Il y a eu un discours qui s'est beaucoup développé à ce moment-là et qui perdure encore jusqu'à aujourd'hui, Alain Fischer.
L'histoire des vaccinosceptiques est complètement liée à l'histoire de la vaccination. Je pense que Mme Guimier, qui a étudié cela, en pourra en parler mieux que moi. Mais la raison pour laquelle il y a eu une concertation citoyenne sur la vaccination à propos des vaccins des jeunes enfants, vaccins existants depuis des années ou des dizaines d'années. Donc c'est une circonstance complètement différente de celle qui est liée au Covid et, on l'espère, à l'apparition de vaccins, la mise en place d'une vaccination, était un contexte où, du fait du développement des idées vaccino-sceptiques, ou hostiles à la vaccination, dans les médias de tous ordres, sans beaucoup de contrepartie, eh bien, on voyait se dégrader et la confiance, et même, ça commençait à apparaître, une certaine diminution de la pratique de au moins d'une partie des vaccins des jeunes enfants. Donc effectivement, c'était préexistant. Et évidemment, par définition, ceux qui, pour des raisons variées, exprimaient ces positions, se sont exprimés d'abord dans le contexte de la concertation. C'était légitime de les entendre. On protestait ensuite lorsque les conclusions ont été remises, protester de façon assez désagréable, évidemment en remettant en cause la légitimité, comme ils le font toujours, de ce type d'action, de concertation. On protestait encore quand des décisions ministérielles ont été prises par Agnès Buzyn, un peu de temps après son arrivée au ministère de la Santé. Mais en fait, on s'est aperçu que parce que cette obligation, je répète encore une fois, dans un contexte très différent, on ne peut pas transposer à la situation actuelle. Éventuellement, on le développera. Mais qui était accompagné d'une bonne campagne de communication et du soutien de beaucoup de professionnels de santé, ça a marché.
Elisabeth Bouvet, effectivement, il y a une longue histoire, comme le rappelait Alain Fischer et également Lucie Guimier, de cette hostilité aux vaccinations en France, qui remonte d'ailleurs, d'après Lucie Guimier, au milieu du 19e siècle en particulier, parfois. Elisabeth Bouvet, sur cette question, justement, est-ce que, en tant que présidente de la Commission technique de vaccination de la Haute Autorité de Santé. Vous avez pris cela en compte, sachant qu'effectivement, comme le disait Alain Fischer à l'instant, ça n'est pas le même contexte. Là, on va créer des vaccins à toute vitesse. Ça n'est pas la même chose que d'utiliser des vaccins qui existent déjà depuis longtemps et de les généraliser et de les rendre obligatoires.
Oui, c'est très différent. D'abord, le contexte est très différent parce qu'on est en plein contexte épidémique, que probablement les vaccins qui vont arriver vont d'abord être proposés et dédiés aux personnes les plus à risque et qui, donc, si vous voulez, qui vont avoir une proposition de se protéger efficacement contre le virus. Donc, je pense que ça crée une situation où on peut penser que probablement les personnes les plus vulnérables qui sont confinées chez elles depuis un moment et qui sont empêchées de voir beaucoup de monde pourraient être adhérées assez facilement à la vaccination parce que ça pourrait leur permettre enfin d'être réellement protégées et pouvoir mener une vie plus normale. Donc il y a ce contexte épidémique qui joue, bien évidemment, qui est très important. Il y a aussi, je pense, le fait qu'il ne s'agit pas, comme je vous disais, les enfants. Il y a le contexte de vaccination chez l'enfant. C'est vraiment quelque chose en France qui répond à, disons, une organisation et une tradition, si je peux dire, presque, ouais. qui est bien cadrée, qui est bien, ça fait partie, quand on est enfant, on a toute cette séquence de vaccination, c'est un peu rituel. On a une pandémie totalement nouvelle, on a des armes totalement nouvelles aussi, avec des plateformes, ce qu'on appelle des plateformes vaccinales, c'est-à-dire des technologies de fabrication de vaccins qui sont tout à fait nouvelles aussi, qui vont arriver. Donc il y a beaucoup d'inconnus. Il y a néanmoins une épidémie qui va plutôt en se réaggravant. Donc c'est un des éléments importants. Et la question de la confiance, effectivement, je pense qu'elle est extrêmement importante. On a essayé, justement, en faisant les recommandations là qu'on essaye d'écrire, on a essayé de tirer parti de ce qui s'était justement passé dans le... ce qui s'était arrivé dans le passé. Et on vous rappelez, je pense que ce à quoi il faut surtout peut-être penser, c'est H1N1, c'est 2009, où il y a eu la même crainte épidémique.
Bien sûr.
Il y a eu un vaccin qui a été proposé, qui a été distribué de façon un petit peu, disons, débattue, discutée, avec des séances de vaccination dans les gymnases,
etc. Et ça n'a pas marché.
Et voilà, ça n'a pas marché. La couverture vaccinale de la population a été assez mauvaise. Elle a été seulement de 10%, alors qu'on voulait vacciner 70% des personnes. Et donc, finalement, quand on prend du recul et qu'on regarde ça, il y a certainement une cause à cet échec qui est le fait que, paradoxalement, si je veux dire, c'est pas paradoxalement, mais c'est finalement le fait que cette épidémie ne faisait plus peur. C'est-à-dire, à ce moment où on a commencé à bien connaître ce virus, on a vu qu'il n'était pas si dangereux que ça. Et puis, la deuxième chose, quand même, et c'est là-dessus, nous, qu'on espère pouvoir faire quand même beaucoup mieux, c'est que cette campagne de vaccination, elle s'est faite un petit peu de façon très administrative, par des services que les gens ne connaissaient pas, et en dehors de la médecine, de leurs médecins traitants, en dehors des acteurs de terrain. Et donc les médecins eux-mêmes, les médecins de ville, les professionnels libéraux, les professionnels de santé en général, ont été très méfiants aussi. Et ça a certainement joué un rôle très important dans la méfiance dans la population.
Ouais.
Donc là, on veut surtout éviter de reproduire ça, et justement mettre, si vous voulez, les professionnels de santé vraiment au cœur du processus de vaccination et avoir leur confiance à eux et que ce soit eux les promoteurs de la vaccination.
On va y venir dans un instant avec vous, Elisabeth Bouvet, avec Alain Fischer. Mais auparavant, Lucie Guimier, ce que vous expliquez très bien dans votre travail, vos travaux sur la question de l'anti-vaccination en France, et ça n'est pas pour rien que c'est une thèse de géopolitique qui a été dirigée entre autres par Béatrice Gilblin, qu'on connaît bien sur notre antenne, c'est parce que en fait, il y a une profondeur historique, expliquez-vous, dans votre travail, au refus, et que cette profondeur historique est souvent une profondeur politique de méfiance, par exemple, vis-à-vis du pouvoir central, de méfiance vis-à-vis de la représentation, de méfiance vis-à-vis de ceux qui, en haut, à Paris, décident, vous l'avez montré en particulier pour la question de la rougeole et de l'épidémie de rougeole de 2008-2011, il y a des attitudes qui relèvent pas simplement des questions sanitaires, mais évidemment d'autres questions civiques et politiques.
Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai été assez étonnée quand j'ai plongé dans les archives pour le besoin de ma thèse, de découvrir qu'en fait, parmi les fondateurs des premiers mouvements antivaccinaux figuraient des médecins qui s'insurgeaient en fait contre l'intrusion de l'État dans leur exercice professionnel.
Libéral.
Voilà. Et donc ça c'est tout de suite en fait ça a été des mouvements contre l'État. Alors l'argumentaire au départ c'était aussi beaucoup ne pas introduire l'État dans les décisions du père de famille. Il y avait vraiment quelque chose de très patriarcal qu'on a un peu moins aujourd'hui quand même. Mais ce qui reste c'est vraiment ce qu'on retrouve chez les anti-vaccins, ce refus de l'intrusion de l'État et cette défense à tout prix des libertés individuelles. Les libertés individuelles, c'est d'ailleurs un sujet qui a énormément été traité pendant cette pandémie.
Bien sûr.
Et qui revient constamment.
Le port du masque, obligatoire, pas obligatoire, etc., etc. Oui, et puis tout un tas d'autres libertés de ce type-là.
Oui, et notamment sur la question de l'obligation vaccinale, je pense qu'on va avoir un retour encore en force de l'argumentaire sur les libertés individuelles.
Oui, d'autant qu'il y a des films qui paraissent cette semaine, par exemple, un film qui paraît justement, qui semble-t-il, moi je ne l'ai pas vu effectivement, prône effectivement toute une vision de cette épidémie et de cette pandémie qui serait manipulée par les grands pouvoirs de l'argent, le pouvoir pharmaceutique, etc. etc. Donc ça ne facilite peut-être pas effectivement l'idée pédagogique que vous voulez avancer, Alain Fischer, parce que c'est cela, vous dites il faut y aller en douceur, alors c'est difficile d'y aller en douceur dans un contexte où tout le monde est très pressé de réouvrir les commerces, de reprendre son activité, de ressortir en boîte, boire des coups, ou d'aller au restaurant, ou d'aller au théâtre et au cinéma, tout cela, c'est difficile de pratiquer une pédagogie lente, qui normalement prend du temps, vis-à-vis d'un moment très accéléré comme celui que nous connaissons.
Je suis pas sûr qu'il faille y aller en douceur. Je pense qu'il faut y aller avec fermeté et clarté.
Et lenteur aussi, un peu.
Lenteur relative, parce que forcément, le temps va être compté entre le moment où un ou plusieurs vaccins, espérons-le, ont été validés. Ça veut dire qu'on aura des informations concernant leur sécurité et leur efficacité suffisamment valides, suffisamment bonnes, donc avec un rapport bénéfice-risque, comme on dit, très favorable, pour lancer la mécanique. On peut commencer à la préparer. Peut-être ce que nous faisons ce soir fait partie de cela. Et effectivement, la façon de procéder, c'est l'information, la pédagogie vers les professionnels de santé. Ça a été très bien dit tout à l'heure, ils sont un relais majeur. Et vers la population générale. Et je pense qu'il y a une notion très importante dans cette question, c'est que ça ne peut pas fonctionner dans un système de silo vertical. De les autorités de santé ont décidé et vous donnent une information et vous suivez. Il faut intégrer autant que faire se peut la société civile. Il faut qu'il y ait un maximum de relais possibles au sein de la société civile pour être les avocats raisonnables, naturellement, avec les bons arguments de la vaccination. Et cela n'est pas une vue de l'esprit. Il existe un grand nombre d'associations dans le domaine de la santé, ne serait-ce que des associations de patients atteints de maladies chroniques, et ils sont en première loge, mais aussi d'autres associations de personnes intéressées par les questions de santé. Et mon sentiment est qu'il va falloir, j'espère que ça sera le cas, les associer le plus possible à cette action d'information et de pédagogie.
Et pour cela, effectivement, Elisabeth Bouvet, il faudrait qu'ils soient convaincus ou qu'elles soient convaincues, ces personnes, de la nécessité de se vacciner. Alors, quand on dit qu'on part de loin, d'une certaine manière, avec un des pays qui est les plus rétifs à cette question de la vaccination, ça n'est pas si simple. Toujours cette même question que je posais à Alain Fischer, faire ça le plus rapidement possible, puisque pour qu'on puisse reprendre ses activités dans la sécurité, parce que effectivement, il faut que ces vaccins soient les plus sûrs possibles, et donc il y aura forcément, il faut espérer qu'il y ait le moins de ratés possible, évidemment, dans cette vaccination de masse. Et puis le faire en ayant convaincu la majeure partie de la population que c'était nécessaire. C'est compliqué tout ça.
Oui, ça fait beaucoup de choses compliquées. Bon, c'est pour ça compliqué et parfois contradictoire, mais l'idée, c'est quand même effectivement, pour poursuivre ce que disait Alain Fischer, c'est que bon, le choix qu'on a fait à la HAS et à la CTV, c'est vraiment de prendre de donner la parole et de donner la main aux, justement, à la fois aux représentants des professionnels de santé et surtout aux représentants de la population, c'est-à-dire aux usagers. C'est-à-dire qu'on travaille main dans la main avec le comité pour l'engagement des usagers qui représente les usagers et face à leurs problèmes de santé et face, par exemple, à cette question de vaccination. Mmh. Et on attend beaucoup de cette consultation publique qu'on a faite pour avoir justement le retour et peut-être l'engagement, parce que c'est vraiment ça qui nous paraît important, c'est l'engagement de ces organismes qui représentent réellement les usagers.
Avec un résultat, disons un retour dans les combien de temps, vous imaginez cette consultation sur combien de temps, Elisabeth Bouvet?
Oui, la consultation, elle est prévue sur un petit mois, c'est-à-dire 4 semaines, c'est-à-dire qu'on aura les résultats de cette consultation publique fin novembre ou tout à fait début décembre, et on va travailler de façon acharnée à recueillir tout ça, à analyser tout ça, et à modifier éventuellement notre proposition, notre projet, en intégrant au maximum les propositions qui auront été faites par les gens qui auront, par les organismes, parce que c'est
ça veut dire que vous appelez le maximum de citoyens et de citoyennes qui nous écoutent à venir poser leurs propositions sur ce site de consultation, c'est cela?
Non, parce que si vous voulez, c'est pas une consultation publique pour personne individuelle.
D'accord.
On demande que les gens qui s'expriment représentent. Donc ça peut être des associations de patients, ça peut être des associations
de médecins, de personnel soignant, etc.
Des médecins, etc. Des syndicats, l'ordre des brevets. On veut que ce soit des organismes qui représentent ces deux forces importantes, qui sont d'une part les usagers et les personnes à risque, et d'autre part, les professionnels de santé.
Vous écoutez France Culture, le temps du débat, nous posons la question de savoir si la Covid peut changer les rapports des Français au vaccin. Et nous sommes en compagnie d'Alain Fischer, d'Elisabeth Bouvet et de Lucie Guimier, qui a travaillé beaucoup sur les années 1970 ardéchoises, ces années de post-68. On écoute La grippe de Brigitte Fontaine et de Jacques Higelin, qui date de cette année-là.
France Culture, le temps du débat. Emmanuel Laurentin.
Ma grippe vous va très bien,
m'a dit mon amant ce soir.
Ça vous donne un joli teint, ça vous va mieux que le noir. Ma grippe vous va très bien.
Souffrez que je tousse un peu, lui ai-je dit d'un air doux. Souffrez que je souffre un peu, j'ai parfois très mauvais goût. Souffrez que je souffre un peu.
Quand vous souffrez, mon ami,
m'a répondu mon amant,
vous ressemblez à la pluie, je trouve ça très saillant. Quand vous souffrez, mon ami,
j'ai un peu peur et je dis que les larmes me vieillissent. Et j'ai un peu peur aussi que la fièvre m'enlaidisse. J'ai un peu peur et je dis,
mais ces os vous vont très bien,
m'a répondu mon amant.
Ne vous inquiétez de rien,
ça vous donne un air troublant. La mort vous ira très bien.
J'ai légèrement rajeuni ce titre de Brigitte Fontaine et Jacques Higelin, La grippe, il date de 1967. Lucie Guimier, si j'évoquais ces années 1970, parce que ce sont celles que vous avez vues dans votre travail de géographe et de géohistorienne ou de géopoliticienne, en vous intéressant à deux départements, l'Ardèche et l'Ain, qui dans une même région avaient des attitudes différentes vis-à-vis de la question de la vaccination contre l'épidémie de rougeole, et vous faites remonter cela en particulier à la question des néo-ruraux dans les années 70 en Ardèche, la manière dont on a dans ce département envisagé différemment la façon de se nourrir, la façon de se soigner, et donc progressivement changer le rapport au vaccin.
Oui, alors ces populations que j'ai étudiées durant ma thèse, c'est vrai qu'en Ardèche il y avait toujours cette particularité sociale chez les parents anti-vaccins que j'ai rencontrés, d'être souvent issus de mouvements néo-ruraux, d'avoir fait ce choix de vie, de vivre dans un territoire plutôt enclavé, de se nourrir généralement d'alimentation bio, de scolariser leurs enfants dans des écoles alternatives. Ça, c'était assez récurrent et c'était assez étonnant de voir ça. Et aussi de consulter des médecins, enfin plutôt particulièrement un médecin, plutôt réfractaire à la vaccination. Donc en fait, le refus vaccinal, ça s'inscrit vraiment dans un cadre, dans un mode de vie. C'est pas déconnecté du reste de votre philosophie de vie, ça en fait vraiment partie.
Bien sûr.
Et quand vous êtes anti-vaccin, vous avez plutôt tendance aussi à avoir des amis anti-vaccin, enfin ça fait tache d'huile quoi.
Et comme d'ailleurs dans l'autre sens, j'imagine que si vous êtes pro-vaccin, vous avez plutôt tendance à avoir des amis pro-vaccin, peut-être, je ne sais pas. Alain Fischer, ce qui est nouveau par rapport à ces années 70, ces années 80, 90, et cette permanence d'un mouvement anti-vaccin en France, ce qui est nouveau avec la Covid, c'est que peut-être les vaccins seront très différents de ce qu'on imaginait qu'ils étaient auparavant. Ils ne sont pas faits de la même manière. Ils ont été très précipités dans leur fabrication, mais ils ont utilisé pour certains d'entre eux des technologies très nouvelles qui sont très différentes de ce que l'on connaissait auparavant.
Il y a des avancées scientifiques majeures qui ont en fait débuté avant la pandémie, à l'occasion notamment des travaux menés sur la vaccination contre Ebola au cours de ces dernières années, qui ont fait avancer les choses. Et il faut saluer, je trouve, le travail considérable qui a été effectué par un grand nombre de chercheurs du monde académique mondial, par académique j'entends universitaire et de recherche, et par les industriels qui se sont engagés vigoureusement avec des soutiens publics non négligeables, notamment aux États-Unis et un peu en Europe, dans cette voie. Et en l'espace de 10 mois, ce qui est quand même assez remarquable, c'est une accélération d'histoire. J'emploierai pas le mot de précipitation, qui a une connotation un peu négative potentiellement. Accélération plutôt, c'est-à-dire qu'en l'espace de 10 mois, on arrive au stade où on a peut-être les tout premiers résultats positifs, alors que au préalable, pour mettre un vaccin sur le marché, il fallait en gros 10 ans. Alors on pourrait dire, oulala, passer de 10 ans à 10 mois, c'est justement une précipitation qui n'est pas sérieuse. Apparemment, si, enfin, on a toutes sortes de garde-fous qui sont en place et qui vont évaluer la sécurité et l'efficacité de ces nouveaux vaccins, par exemple, celui qui est concerné par l'annonce de la société Pfizer avec BioNTech il y a 48 heures. C'est un vaccin constitué d'ARN, donc on n'a jamais vraiment utilisé de vaccin de ce type à ce jour. C'est une nouvelle technologie qui est assez simple à mettre en œuvre, qui permet de produire en grande quantité les vaccins. Et évidemment, il faut être très vigilant parce que c'est une nouvelle technologie, mais elle est extrêmement intéressante.
Oui, Elisabeth Bouvet, tout de même, une des questions, c'est de se demander justement devant cet afflux, s'il n'y aura pas augmentation de cette réticence en se disant, eh bien, ce sont des nouveaux vaccins, on ne les a pas testés, enfin on les a testés, mais très rapidement. Y aura-t-il des couacs dans leur application, des difficultés, des causes secondaires qui pourront être, des effets secondaires qui pourront être développés après la vaccination? Donc, il peut y avoir là aussi une angoisse supplémentaire, même si la peur d'être touché par la Covid peut pousser des gens à aller se faire vacciner. Elisabeth Bouvet ?
Oui, vous m'entendez pas là ?
Si, je vous entends maintenant.
Oui, c'est sûr que les enjeux sont extrêmement importants et que c'est pour ça que je pense que là, qu'il peut y avoir une certaine crainte, parce que c'est vrai que ces vaccins sont nouveaux, c'est vrai que, bien sûr, ils auront passé tous les tests en termes d'efficacité et surtout de tolérance, c'est-à-dire que il y aura eu des milliers de personnes déjà vaccinées, et que s'ils arrivent sur le marché, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de signal d'effets secondaires graves relevés. Donc ça, c'est quand même important, mais on sait très bien que, bien sûr, le démarrage va bien sûr être un moment délicat, puisqu'il peut y avoir des couacs, il peut y avoir, et surtout ce qui est difficile dans un vaccin quand vous l'administrez de façon très large, il peut se passer des choses qui n'ont rien à voir avec le vaccin. Comme vous venez d'être vacciné, on va penser que peut-être ce qui vous arrive est en rapport avec le vaccin. Et là, c'est toujours extrêmement difficile de faire la part de ce qui est réellement dû au vaccin ou de ce qui est tout à fait une coïncidence. Et plus vous vaccinez de gens en même temps, plus les coïncidences sont fréquentes.
Le conseil scientifique, le 9 juillet, dans un avis, disait l'adhésion de nos concitoyens à la vaccination est à construire. C'est beaucoup, tout de même, cette question de se dire que c'est à construire. Est-ce que ça n'est pas aussi compliqué par l'idée que qui va décider de cette vaccination, de comment, puisqu'on parle de confiance depuis le début de cette émission, quelles sont les autorités qui vont prendre ça en charge, avec ces multiples, disons, avis qui peuvent venir de la Haute Autorité de Santé à laquelle vous appartenez, Elisabeth Bouvet, du Conseil scientifique, de cette task force interministérielle dont on nous parle, qui serait santé, recherche et industrie, etc., etc. Et est-ce que la multiplicité des acteurs ne risque pas aussi de perturber les citoyens que nous sommes?
Oui, alors, vous avez raison, il y a beaucoup de gens qui semblent s'occuper à la fois du virus, du vaccin, de l'épidémie, etc. Mais finalement, en ce moment, les choses sont en train de se mettre en ordre et clairement, on va vers ce qui est d'ailleurs l'habitude en France et ce qui est la règle, c'est que c'est la commission technique des vaccinations qui fait les recommandations en matière de stratégie vaccinale.
Donc, dont vous êtes présidente.
Voilà. Donc là, tout le monde est d'accord là-dessus. Nous travaillons avec la task force. Nous travaillons avec le conseil scientifique. Nous nous réunissons très, très régulièrement avec eux. Et donc, les recommandations qu'on va produire, elles sont, si vous voulez, émises vis-à-vis du ministère de la Santé. Et c'est après le ministère de la Santé qui met en œuvre, ou pas, d'ailleurs, il y a une certaine latitude, bien évidemment. Nous, ce sont des propositions que nous faisons. Mais bien évidemment, dans nos propositions, nous travaillons aussi avec des personnes qui travaillent au ministère de la Santé de façon, on travaille avec eux en continu. Donc, quand on produit nos recommandations, c'est en général qu'elles ont été mûrement réfléchies et, si vous voulez, discutées avec les personnes qui appartiennent à ces différents organismes. Après, c'est au niveau du ministère de la Santé que les choses se mettront réellement en place et toute l'organisation sera la responsabilité du ministère de la Santé.
Mais sur ce point, Lucie Guimier, on sait que la confiance est à construire, comme l'adhésion, le disait le conseil scientifique, est à construire, avec un haut niveau de méfiance pour certains des concitoyens, et qu'il y a, on l'a bien compris, des dimensions géopolitiques, politiques, sociales à l'œuvre. Est-ce que le moment que nous vivons, qui est un moment à la fois de crainte et aussi de crainte pour son emploi, de crainte et de défiance vis-à-vis d'un pouvoir central souvent, peut-être le moment idéal justement pour lancer une nouvelle grande campagne de vaccination, Lucie Guimier?
Alors, je voudrais prendre exemple sur ce qui se passe un peu à l'étranger actuellement. C'est vrai qu'on parle, c'est assez paradoxal parce qu'on parle de vaccinoscepticisme, mais que le vaccin est un outil qui a émergé récemment dans les discours nationalistes de certains dirigeants. D'un point de vue stratégique, en fait, on comprend bien pourquoi, hein. On est depuis le début de l'année tous enrôlés dans un millefeuille d'incertitudes sur l'évolution de la crise sanitaire, sur nos situations économiques. Beaucoup de personnes ont perdu leur emploi. Et donc le vaccin, il apparaît malgré tout comme un outil miraculeux qui va à la fois permettre de rassurer la population, tout en ouvrant la possibilité d'endiguer la pandémie. Et en même temps, on sait aussi que pour certains dirigeants, c'est la possibilité de se placer dans un rapport de force sur l'échiquier politique mondial. Donc c'est assez paradoxal. Et en même temps, je voudrais rajouter aussi qu'on voit bien avec le vaccin antigrippal qui d'habitude n'est pas particulièrement affectionné, qui est actuellement en rupture dans beaucoup de pharmacies. On a quand même cet effet pandémie qui joue un petit peu plus que l'effet peur du vaccin actuellement. Enfin, c'est mon point de vue.
Sur ce point, Alain Fischer.
Oui, je suis absolument d'accord. On est en train de vivre une petite expérience qui, je l'espère, se confirmera, se reproduira lorsque il sera temps de vacciner contre le SARS-CoV-2, donc contre la maladie COVID-19, à travers la vaccination contre la grippe, puisque dès que le vaccin est devenu disponible, à mi-octobre, beaucoup de personnes se sont ruées sur ce vaccin, que ce soit les personnes à risque qui étaient prioritaires, mais aussi certaines qui ne l'étaient pas. Et ça suggère, même s'il faut être prudent, mais ça suggère fortement qu'il y a une attente qui peut-être, in fine, l'emportera sur les méfiances dont on a parlé.
Oui, et néanmoins, il y a toujours le risque de politisation. Lucie Guimier en parlait, effectivement. que tel ou tel bord politique s'empare de cette question-là. Alors, il faudrait, j'imagine, selon vous, Alain Fischer, qui est pour, évidemment, cette vaccination sans la rendre obligatoire, vous nous l'avez dit depuis le début, qui est pour cette vaccination de masse, qu'il y a un soutien populaire à ce vaccin et qu'il faut le construire, comme le disait le Conseil scientifique, ce soutien populaire. Comment faire ?
Bien sûr, ça revient un tout petit peu à la question de quelle pédagogie, quelle information, ouais. Qui le fait, qui y participe. On a évoqué tout à l'heure largement l'implication de la société civile, d'associations qui doivent être partie prenante, être des relais.
Et puis des stratégies, par exemple, savoir qui doit l'être en premier. Parce
oui,
que, évidemment,
c'est le travail que l'HAS, la Haute Autorité de Santé, est en train de faire avec d'autres travaux qui ont été faits ailleurs, de l'OMS à plein d'académies des sciences diverses et multiples dans le monde, pour définir les priorités. Et il faudra aussi que les autorités de santé définissent les modalités de la vaccination. Qui vaccine ? Est-ce que le vaccin est gratuit ? C'est-à-dire complètement pris en charge par la Caisse nationale de sciences maladies, je l'espère. Il faut faciliter autant que faire se peut cette vaccination.
D'autant qu'il n'y aura pas un vaccin. On peut l'espérer.
Espérons qu'il y en aura plusieurs.
Il y en aurait plusieurs. Et s'il y a plusieurs vaccins, Elisabeth Bouvet, il va falloir choisir lequel d'entre eux on va donner à tel type de personnes. Des auditeurs sont en train de m'écrire pour me dire, mais est-ce qu'on pourrait avoir l'assurance qu'il n'y a pas d'aluminium dans tel ou tel vaccin ? Elisabeth Bouvet, on voit bien effectivement que ces questions seront importantes parce que chacun sera peut-être en possibilité de choisir tel ou tel vaccin. Ou va-t-on leur demander, pour telle catégorie de personnes, plutôt celui-ci ou plutôt tel autre, en fonction de ses propriétés, Elisabeth Bouvet ?
Oui, peut-être qu'il y aura des choix des vaccins en fonction des caractéristiques des personnes à vacciner, notamment, et je compte beaucoup sur les professionnels de santé aussi, c'est-à-dire qu'on a parlé de la confiance, et que je pense qu'un enjeu important, c'est si les professionnels de santé ont cette confiance. Et ce sont eux qui vont vacciner, et s'ils se font aussi vacciner, je pense que ça aura un rôle très important d'entraînement vis-à-vis de la population. Mmh. Et donc, ils vont faire partie des personnes à qui on va proposer d'être vaccinés en premier. En premier, avec les populations les plus fragiles et les plus vulnérables. Mmh. Donc là, ça jouera un rôle très important. Après, il y aura certaines, probablement en même temps, plusieurs vaccins, mais ce sera séquentiel. Donc, on va définir, nous, des priorités en termes de population à vacciner, et on prendra en compte dans les recommandations pour chaque vaccin, au fur et à mesure qu'ils arriveront, des caractéristiques des patients. Il est possible, par exemple, que certains vaccins soient moins efficaces chez des personnes plus âgées, que d'autres vaccins soient plus efficaces chez les professionnels de santé, parce qu'ils joueront plus sur la transmission de l'infection. Donc tous ces éléments-là seront pris en compte dans les recommandations qu'on produira.
Un dernier mot, Alain Fischer, pour conclure. Vous aviez donc présidé le comité d'orientation de la concertation citoyenne sur les vaccinations, lancé en 2016. Est-ce que, ça fait partie aussi de la question de la confiance, est-ce que les recommandations que vous aviez faites ont été finalement appliquées ? C'est-à-dire, on a fait appel à un comité, il s'est réuni, il a travaillé. Ou est-ce qu'au fond du compte, au bout du compte, ça finit dans un fond de tiroir, comme parfois ça peut arriver ? Un dernier mot pour terminer là-dessus.
Non, ça n'a pas été le cas, puisque la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, en 2017, dès son arrivée, a décidé avec le gouvernement de rendre obligatoire la vaccination contre les 11 vaccins qui étaient recommandés jusque-là pour les jeunes enfants, assortie d'une campagne d'information très large. Et ceci a eu l'effet, en tous les cas jusqu'à la pandémie de Covid, qui malheureusement complique les choses parce que les gens vont moins chez leur médecin, mais la couverture vaccinale a augmenté et la confiance a un petit peu augmenté. Donc on était sur la bonne voie.
Merci beaucoup Alain Fischer. Je rappelle que vous êtes professeur émérite d'immunologie pédiatrique, titulaire de la chaire de médecine expérimentale du Collège de France, président donc de ce comité d'orientation dont on vient de parler. Et vous êtes également membre d'un comité d'évaluation des vaccins. Merci à vous Elisabeth Bouvet. Vous avez beaucoup de pain sur la planche désormais en tant que présidente de la commission technique des vaccinations de la Haute Autorité de Santé, on l'a compris. Et merci à vous Lucie Guimier, géographe qui a fait sa thèse sur les résistances aux vaccinations en France. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Hugo Boursier, Fanny Richer, Rémi Bailly, Imane Gilles, Jean-Frédéric Sétet avec nous à la technique et Félix Levaché à la réalisation. Dans le temps du débat demain, nous nous demanderons à quel point la Covid nous désoriente dans une conversation mondiale. Vous savez, cette discussion entre deux écrivains, deux artistes ou deux intellectuels, ça sera demain l'historien François Hartog et le philosophe italien Roberto Cassati.